99 ans après, près d'un siècle après sa mort, savons-nous tout de la vie de Franz Kafka? Ce n'est pas certain. Alors que vient d'être publié en français aux éditions du Cherche Midi le tome 1 d'une biographie événement écrite par l'allemand Rainer Stach, l'un des plus éminents spécialistes de Kafka, confie dans son introduction « Il subsiste encore, c'est vrai, des points aveugles d'assez grande envergure, mais dans l'ensemble, nos connaissances au sujet de la vie et du milieu de Kafka se sont multipliées depuis les années 1970. C'est donc lui, Rainer Stach, qui s'est lancé dans le défi de cette somme biographique de l'écrivain tchèque. Alors que nous apprend-elle de nouveau? On en parle jusqu'à 13h30 avec nos invités, bien sûr, et avec vous, les membres du Book Club.
Je suis très troublé là, à l'idée de parler de l'homme Kafka, parce que
pour entrer dans l'univers de Kafka
avec Franz Kafka,
c'est un homme qui s'est retrouvé au carrefour de très nombreuses contradictions
et qui nous explique son rapport à l'ambition.
France Culture, le Book Club, Nicolas Herbeau.
Cyril, Guillaume et Grégoire, les lecteurs du Book Club passionné de Kafka. Bonjour Cécile Hilbert.
Bonjour.
Bienvenue dans notre club de lecture. Vous êtes romancière, essayiste, critique littéraire et vous avez lu cette nouvelle biographie de Franz Kafka, le tome 1, intitulé donc « Le temps des décisions ». Et elle vous a, comment dire, fortement enthousiasmé. Alors qu'on ne peut pas dire que l'œuvre de l'écrivain Franz Kafka, on ne peut pas en dire autant de son œuvre. Vous avez un rapport un peu ambigu entre son œuvre et sa biographie. Comment vous l'expliquez ?
J'ai toujours été passionné par les documents intimes en fait qui émanaient de Franz Kafka, ses lettres, ses journaux, évidemment, c'est toujours bouleversant et on ne peut pas ne pas y être sensible à la puissance de cette vocation, à ses déchirements. Sa fiction, je l'apprécie évidemment, mais si vous voulez, c'est pas ce que je préfère le plus au monde en littérature. Voilà.
Vous disiez en 2017, il y a des livres qui me tombent des mains depuis toujours, les romans de Kafka notamment, comme quoi on peut tout à fait reconnaître qu'un artiste est capital dans l'histoire de son art sans en avoir le goût.
Tout à fait. Mais bon, ce sera un peu exagéré de dire que je n'ai pas le goût de Kafka. Il y a des récits merveilleux de Kafka que j'adore lire. Et d'ailleurs, cette biographie m'a donné très envie d'y retourner. Voilà.
Ah bah, c'est une bonne nouvelle. On va rentrer évidemment dans le détail de cette biographie de Kafka, écrite donc en allemand par Rainer Stach, qui nous avons convié pour en parler, et bien celui qui nous permet de la lire aujourd'hui en français, Régis Quatre-Sous. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes traducteur littéraire et c'est à vous donc que la tâche a été confiée de traduire cette trilogie biographique. Le tome 1 en allemand a été publié au début des années 2000. Est-ce que vous avez une idée de pourquoi est-ce qu'il y a un si grand décalage avec son arrivée jusqu'à nous en français près de 20 ans après ?
Aucune idée.
C'est inexplicable.
C'est inexplicable parce que je sais que dès la parution du premier tome en Allemagne, le manuscrit, enfin le livre s'est retrouvé sur le bureau des plus grands éditeurs français et qui ont refusé visiblement de le faire, peut-être pour des questions de coûts, de risques, sachant que à l'époque on savait pas peut-être quelle tournure allait prendre le projet et puis si ça allait vraiment bien marcher en Allemagne et puis mais même après coup quand le livre a dépassé les dizaines de milliers de ventes, ça n'a pas attiré davantage les éditeurs français. Et quand je me suis lancé dans le projet de traduction et que j'ai essayé de le placer, ça n'a pas marché non plus.
Voilà. Et pourtant, il y a une curiosité, un attrait au roman et aussi à la vie de Franz Kafka en général en France, Cécile Gilbert.
Oui, tout à fait. Bon, Kafka est un des auteurs les plus commentés. Il y a des gloses et d'ailleurs, Rainer Stach, non sans humour. Pointe effectivement toute cette glose et ces empilements de kafkalogie, comme disait Milan Kundera en fait. Mais moi je pense que bon, les éditeurs français font preuve d'une assez grande frilosité. Je trouve que les grandes maisons de ce pays n'assument plus leur mission, que je dirais spirituelle, à l'égard d'un certain nombre de livres, parce que c'est parfaitement incompréhensible que cette biographie qui a été traduite en anglais et en espagnol 2-3 ans après sa parution allemande n'est pas intéressé qui que ce soit. Donc saluons donc les éditions du Cherche Midi qui se sont lancées courageusement dans cette affaire.
Le tome 1 vient de paraître donc. On attendra le tome 2, ce sera pour le mois de novembre prochain. Mais d'abord, regardons et écoutons notre membre du Book Club, Guillaume, de la librairie Écume des Pages à Paris, qui lui a lu cette biographie. Et voilà ce qu'il en retient.
Cette biographie de Franz Kafka vient absolument comblé un manque, puisque jusqu'à présent, bizarrement et paradoxalement, il n'y avait aucune biographie complète sur Franz Kafka. Alors ça, c'est déjà très très important que ce texte existe. Et puis, par ailleurs, moi je l'ai surtout lu comme un texte littéraire, puisque Rainer Stasch le dit lui-même, il est rentré en totale empathie avec Franz Kafka. Et du coup, cette œuvre vraiment nous donne un nouveau regard sur cet immense écrivain. Et puis, on peut absolument s'emparer de cette époque et de toutes les thématiques que Franz Kafka a pu aborder, le rapport au père, la judéité, la vie d'un employé de bureau, l'ennui. Enfin, en tout cas, c'est un texte absolument passionnant qu'il faut venir acheter en librairie. Et il faut se plonger dedans, c'est vraiment un texte important et essentiel.
Pour raconter à nos auditeurs, il y a un moment où tous les deux, nos deux invités ont hoché de la tête, c'est quand Guillaume dit c'est un texte littéraire. Cécile Gilbert, sur cette idée-là, vous dites on est carrément face à une histoire, un roman presque, de ce personnage qui est devenu Franz Kafka dans cette biographie.
Oui, mais alors il faut faire attention, parce que le libraire parle d'empathie, bon, bien sûr que le biographe fait preuve d'empathie, et il fait preuve d'une forme aussi d'identification, tout en mettant en garde méthodologiquement sur ces deux vertus qu'il faut avoir, mais point trop non plus. Rien de ce qui est avancé dans cette biographie est faux, si vous voulez. C'est pas une biographie qui est encombrée d'interprétations, de psychologie. Tout ce qui est annonce est vrai, et ce qui est fascinant dans cette biographie qui recoupe les années 1910-1914, c'est-à-dire très peu d'années, c'est qu'il nous explique qu'on peut suivre Franz Kafka quasiment jour après jour. Et il y a des moments où presque heure après heure, parce qu'en fait, on recoupe à la fois les lettres de ses amis, les journaux de ses amis, ses propres journaux, qui sont parfois pas difficiles à dater, parce qu'il n'y a pas toujours des dates dans les journaux de Kafka. Donc, lui a fait tout ce travail de recoupement, et en fait, je pense que c'est dû à ses exceptionnelles qualités d'écriture à lui. C'est un écrivain, star. C'est pour ça qu'il arrive à incarner Kafka à ce point et à nous le rendre si proche.
Alors la parole à celui qui l'a traduit. Quand vous avez découvert ce texte en allemand de Rainer Stark, qu'est-ce que vous vous êtes dit, Régis Quatre-Sous ?
Qu'est-ce que je me suis dit ? Que j'ai trouvé ça... j'ai été assez subjugué en fait par le texte, par la densité de cette écriture, la finesse des analyses, mais aussi par la grande rigueur... presque éthique de l'auteur, parce que comme le souligne Cécile Gilbert, il y a une volonté de ne strictement rien inventer et de puiser dans une matière qui est finalement assez abondante entre les écrits intimes de Kafka, de ses amis, et aussi tout ce qui est en quelque sorte périphérique, à savoir l'époque, les documents historiques, les journaux. Et à partir de tout ça, il arrive à composer un paysage presque intégral de l'univers de Kafka. Et j'aimerais rebondir sur une chose qu'a dit l'auditeur et aussi sur une chose qu'a dit Cécile Gilbert, c'est que, en fait, quand je parle de ce livre, je dis toujours que ça peut intéresser, évidemment, ça intéressera les gens qui sont passionnés par Kafka, mais je pense que ça peut intéresser n'importe qui se demande de quelle façon on peut raconter avec rigueur et sans romancer une existence humaine, pas de A à Z, mais dans la mesure du possible, en tout cas.
Cécile Gilbert.
Oui, c'est tout à fait juste. Ce que je voudrais ajouter, c'est que pour qui ou qui n'a pas, peu importe, lu déjà des grandes biographies de référence d'écrivains. Je pense à la biographie de Joyce par Hellman, je pense à celle de Boyd de Nabokov, et il y en a, et je viens de lire aussi celle de Roth il n'y a pas longtemps. Quiconque a eu affaire à des biographies d'écrivains sera effectivement complètement fasciné par celle-ci, parce qu'elle ne ressemble à aucune autre biographie d'écrivain, en tout cas de ce que j'ai pu lire dans ma vie, dans la mesure où elle réunit, il y a à la fois une gageure et une prouesse. Si vous voulez, la gageure, c'est d'écrire la biographie d'un être dont Starr explique dans cette introduction que j'ai trouvée vraiment éblouissante d'intelligence, à quel point son champ existentiel est restreint. Il vit que 41 ans, il sort 45 jours de son pays, il n'a pas de descendance, il n'a pas de vie, il vit dans un mouchoir de poche à Prague, toujours dans les mêmes quartiers, etc. Donc si vous voulez, c'est très restreint au plan existentiel, il n'y a pas de déploiement
de voilà. grands voyages.
Donc il n'y a pas ce déploiement que Starr appelle horizontal de l'existence de Kafka. Donc la gageure, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec, écrire une biographie qui va faire 3 fois 900 pages, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qu'il raconte ? En fait, il raconte verticalement la profondeur intérieure de Kafka. Comment faire la biographie d'une intériorité aussi riche et complexe que celle de Kafka ? C'est ça la gageure. Et la prouesse, c'est qu'il arrive à le faire en mêlant effectivement des analyses d'une intelligence très grande, avec une sensibilité, et c'est là où il y a son empathie, son identification, sa grande rigueur, sa sensibilité littéraire, si je puis dire. Et il nous rend tout ça avec une vivacité. C'est là où on parlait de l'incarnation et qu'on suit finalement ce Kafka. Je ne sais pas ce qu'il en sera des tomes suivants, mais en tout cas, dans ce tome-là, on le suit comme un personnage de roman de sa propre existence et de sa propre intériorité. Et ça, c'est complètement fascinant. Et c'est, à mon avis, ce qu'on n'a jamais lu encore sur la vie d'un écrivain.
Franz Kafka, qui est donc né à Prague en 1883, et il a vécu, ou il a d'ailleurs vécu, vous venez de le dire, Cécile Gilbert, une plus grande partie de sa vie, et c'est là d'ailleurs qu'il est enterré. Ce premier tome débute donc en 1910. 1910, c'est l'année où il commence ses journaux, Régis Quatre-Sous. Qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi est-ce qu'on décide de ne pas raconter, par exemple, toute sa partie sur l'enfance? Parce qu'on ne connaît rien, justement, de ça, ou en tout cas pas grand-chose. Et que la vraie intériorité dont parlait Cécile Gilbert, c'est quand il commence à se raconter lui-même.
Les deux, c'est-à-dire qu'au moment où Starr a commencé sa biographie, une partie du legs littéraire de Max Brod, l'ami intime de Kafka, n'était pas encore ouvert et il espérait que la révélation de cet héritage nous apprendrait beaucoup de choses sur les jeunes années de Kafka. C'est donc d'abord, encore une fois, un scrupule de méthode, de commencer par ce qu'on sait. Et en même temps, c'est comme vous le dites, le moment où Kafka commence, comme il le dit dans son journal, à tourner chaque jour une ligne contre lui, en fait, comme vers une comète, et accède à son existence d'écrivain, quoi. Ça, c'est certain.
Vous avez dit le mot comète, alors allons-y. Rainer Starr aime bien cette année 1910 parce que c'est donc l'année de la comète de Halley qui émerge des régions obscures de l'espace tous les 76 ans. Et il raconte, Rainer Starr, ce jour du mercredi 18 mai 1910 dans le monde, aux États-Unis, à Paris, à Munich, à Prague. Et on rencontre Franz Kafka après cette longue introduction très très dense et très intéressante. 1910, c'est aussi, et 1915, puisqu'on va jusque-là, ce sont aussi deux phases très fécondes de la créativité, de la création de Franz Kafka, puisque durant ces années, il va écrire Le Verdict, La Métamorphose, Le Disparu et Le Procès. Donc on est dans une partie de sa vie, effectivement, où il sera très créatif et il va écrire beaucoup.
Oui, tout à fait. C'est le grand choc pour lui qui a déclenché cette espèce de vague. Bon, c'est comme le dit très bien Starr, il y a un motif de vague dans l'inspiration de Kafka, c'est-à-dire que tous les textes que vous citez n'ont pas été écrits d'un seul coup. Ils correspondent à plusieurs phases d'inspiration successives à travers les années 1912-1915. Et le grand choc pour Kafka, c'est la rencontre avec Felice Bauer, qui deviendra deux fois sa fiancée sans qu'il ne se marie jamais. Et le premier texte, c'est Le Verdict, qu'il écrit en une nuit, sans s'arrêter. Je crois que c'est la nuit du 22 au 23 septembre, quelque chose comme ça. Et pour lui, c'est une révélation, parce que pour la première fois, il a le sentiment d'avoir composé quelque chose d'absolument inéluctable, indubitable. Et là, il entre vraiment dans sa vraie profondeur d'écrivain, au point d'avoir l'impression que tout ce qu'il a écrit auparavant relève des bas-fonds de l'écriture.
Il est très sévère aussi avec lui, on le lit dans quasiment à chaque page. Il déchire quelque chose, il brûle, il jette, il se trouve mauvais. C'est aussi une manière de presque de souffrir avec lui dans cet exercice de l'écriture, Cécile Gilbert.
Oui, alors moi, ce que je trouve le plus fascinant avec Kafka, et c'est ça qu'il faut bien garder à l'esprit quand on se demande ce que c'est qu'être écrivain, c'est qu'être écrivain, c'est écrire, c'est pas publier. Et là, on le voit très très nettement dans la vie de Kafka. C'est-à-dire que, en fait, ce qui est amusant, et un paradoxe et une ironie de son histoire et de son sort, c'est que quand il rencontre Felice Bauer, qui va d'une certaine façon déclencher, et si ces fiançailles, ce mariage impossible vont avoir cette fatalité pendant 5 ans, c'est parce que d'une certaine façon Félicé Bauer a été associé symboliquement à son accouchement, son auto-accouchement d'écrivain, c'est ça qui va aussi le nouer à elle. Mais il la rencontre le soir où il va chez son ami Brod composer les volumes d'un petit livre qui va être sa première publication, parce qu'il n'a écrit que des proses éparses. Et puis de toute façon, Brod lui a dit « mais il faut que tu publies, il faut que tu sortes du bois, etc. » Et donc mais finalement, quand ce volume est composé et qu'il écrit le verdict presque un mois après ou 3 semaines après, ça n'est déjà plus rien pour lui, ce volume qui va paraître. Vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait, il est presque en avance, sa vocation littéraire le pousse vers des choses qui périment déjà ce qu'il publie ou ce que les autres veulent le voir publier, parce que lui, finalement, il est pas du tout dans le milieu littéraire. C'est pas un homme du milieu littéraire. Il méprise le milieu littéraire. Et finalement, c'est là où on voit aussi que Brod est un homme de lettres. Voilà. C'est un homme de lettres. C'est un homme du milieu littéraire. Kafka est un artiste, mais qui pousse l'art jusque dans les régions de la spiritualité la plus pure, quoi.
On va parler de Max Brod dans un instant. D'abord sur Franz Kafka. Il vit donc à Prague avec ses 3 sœurs. C'est le seul à avoir une pièce dans cet appartement un petit peu exigu. Et il travaille dans un bureau d'assurance. Vous disiez, il est pas du tout dans la littérature. Effectivement, sa vie diurne, si je puis dire, c'est d'aller donc dans ce bureau d'assurance. Il met de temps en temps la patte au magasin. Dans le magasin de ses parents, même si ça ne l'intéresse pas vraiment, il veut être écrivain, il veut se plonger dans la littérature. Comment il fait pour écrire? On a beaucoup dit qu'il écrivait la nuit. Est-ce qu'il n'écrit que la nuit? Comment il fait pour écrire? On le découvre dans ce livre aussi. Régis Quatre-Sous.
Le fait d'écrire la nuit, je pense que, dans un premier temps, c'était quelque chose de contraint, au sens où la nuit, c'est le moment où tout le monde dans l'appartement est couché, et en particulier ses parents. Et donc je pense qu'ensuite, pour lui, la nuit, avec son silence, parce que Kafka était, je pense, hyper sensible au bruit de manière un peu pathologique, mais il a accédé ensuite, je pense, à autre chose. Mais initialement, et c'est ça que montre très bien la biographie, c'est un choix contraint. Il ne peut pas écrire vraiment à un autre moment de la journée. Pour ce qui concerne son travail, ce que je trouve très intéressant dans la biographie aussi, c'est la manière dont elle révèle l'envers du décor des écrits intimes de Kafka, parce que Kafka ne parle jamais, mais alors jamais, de son bureau. De son bureau à l'office d'assurance contre les accidents du travail. Et Starr nous montre qu'en fait, Kafka était extrêmement performant, était une des personnes qui connaissait le mieux la dimension sociale de l'industrie de la Bohème du Nord, là où il travaillait. Il était plongé dans le quotidien des ouvriers parce qu'il était chargé de leur accorder des primes dans le cas d'accident, etc. Donc c'était quelqu'un qui était en fait un avant-poste de l'état social de son temps. C'était quelqu'un qui faisait son travail extrêmement bien et qui était très apprécié de ses supérieurs, mais il a pris la décision de ne pas en parler du tout dans son dialogue avec lui-même, parce que c'est quelque chose qu'il veut absolument écarter de lui quand il se met à écrire la nuit, justement.
Ça veut dire, Cécile Gilbert, qu'il raconte dans son journal sa vie d'écrivain, en fait, ce qui le traverse, en tout cas, dans cette facette de son portrait, de ce qu'il est, en fait.
En fait, ce qu'on comprend bien avec cette biographie, et que moi, j'avoue, là, j'ai appris quelque chose, je ne me rendais pas compte à ce point. C'est-à-dire qu'en fait, quand on pense à Kafka, employé de bureau, enfin, on pense à quelqu'un comme Fernando Pessoa ou Italo Svevo, une sorte de rond de cuir, si vous voulez, c'est pas du tout ça. En fait, Régis Quatre-Sous a parfaitement raison de dire qu'il était non seulement très compétent, très apprécié, mais il avait son travail, était celui de rédacteur, donc il devait faire très très attention au langage. Et c'est ça le drame de la vie de Kafka, c'est que finalement, son gagne-pain, le bureau qu'il déteste, qui l'empêche d'écrire, de faire son vrai travail qui est d'écriture, si vous voulez, utilise le même médium qui est le langage que la littérature. Et donc là, il y a un conflit énorme, et donc ça lui prend des forces. C'est comme si, vous voyez, les vases communicants, ça lui prend de l'énergie verbale, langagière, sur sa littérature. C'est pour ça que le conflit est si fort. Et ça, on le comprend très bien, parce qu'en fait, on se rend pas compte à quel point son travail consiste à écrire au bureau. Sur des choses juridiques en plus, donc oui. C'est l'écho juridique avec ses propres thèmes, évidemment.
Dans ces 900 pages, il y a aussi deux cahiers avec évidemment plein de documents originaux à voir, hein, et qui permettent évidemment de comprendre aussi d'où viennent toutes les sources utilisées par Starr. Il y a un homme de qui Kafka a été très proche, alors on a parlé de Felix Ebauer, mais c'est donc son ami Max Brod qui lui consacra d'ailleurs lui aussi une biographie. Il s'est un peu imposé comme celui qui connaissait le mieux Kafka, en tout cas personnellement et même intimement. C'est évidemment la fameuse histoire que l'on rappelle à chaque fois. Il a désobéi à Kafka, qui lui avait demandé de brûler son journal, ses écrits après sa mort. Et notre lecteur, Grégoire, nous parle donc de ce Kafka vu par Max Brod.
Pour entrer dans l'univers de Kafka, Max Brod, c'est la grande porte. Max Brod, c'est l'ami de toujours, l'intime. Celui qui nous raconte Kafka presque de l'intérieur, qui semble parfois comprendre ses états d'âme, ses fonctionnements, ses névroses mieux que personne, qui analyse son parcours familial et qui nous explique son rapport à son œuvre propre, son rapport à son lectorat, son rapport à l'ambition. Personnellement, la lecture de Max Brod m'a permis de comprendre Kafka sous un jour complètement nouveau, qui explique l'œuvre, l'ambiance, l'atmosphère si particulière à Kafka, mais qui humanise aussi l'auteur, l'homme de lettres, qui donne une dimension inattendue à sa vie, son parcours et son caractère. Je pense franchement qu'on ne peut pas bien comprendre Kafka si on n'a pas lu d'abord Max Brod. Cela étant, tout le reste du travail bibliographique reste évidemment très 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 intéressant et complète largement Max Brod, puisque ce dernier m'a semblé parfois un petit peu partial, comme s'il voulait de temps à autre un peu tirer la couverture à lui et s'accaparer Kafka dans des perspectives politiques, par exemple dans son lien avec le sionisme, qu'il surinterprète un petit peu et qu'il rend plus important qu'il ne l'a été véritablement.
Max Brod qui publie sa biographie quelques années après la mort de Franz Kafka, et Daniel Stark le dit très bien d'ailleurs dans sa biographie, on a depuis des tonnes et des tonnes de documents qui viennent évidemment apporter un regard différent sur qui était Franz Kafka, Régis Quatre-Sous. Donc c'est vrai que cette biographie de Brod, elle est totalement partiale.
Oui, bon, la postérité est assez dure avec Max Brod parce qu'il a eu tendance... comme l'a très bien dit l'auditeur, à vouloir assimiler Kafka à un penseur, qui plus est un penseur religieux juif et un penseur religieux juif sioniste. Bon, cette dimension-là, elle est présente chez Kafka à l'état de rudiment ou à l'état de tentative, etc. Tout ça donc n'est pas faux, mais il a eu tendance à exagérer l'interprétation de Kafka en ce sens, ça c'est tout à fait vrai. Donc je pense que ce qu'a dit l'auditeur sur Max Brod, on pourrait le dire maintenant plutôt de Rainer Starr, à mon avis. La grande porte d'entrée maintenant pour Kafka, c'est plutôt cette biographie. Mais malgré tout, bon, cette histoire de testament trahi, etc., il faut aussi savoir que le jour où Kafka a prévenu Max Brod qu'il lui demanderait de tout brûler, Max Brod l'a prévenu qu'il le ferait jamais, quoi. Donc, ce testament a une dimension, bon, je pense que ça aussi c'est très connu, assez ambiguë, mais bon.
Voilà. Qu'est-ce que la biographie de Starr apporte de plus sur la relation entre les deux? On sait que Max Brod, c'est quand même celui qui croit en Kafka, l'écrivain, très tôt. C'est lui aussi qui va le forcer. Cécile Guilbert, vous parliez de la publication tout à l'heure, à le publier. Il va l'emmener à Leipzig, notamment, la ville du livre et de l'édition, pour le forcer à rencontrer des éditeurs. Donc il y a tout ce rôle aussi un peu de... presque d'agent, je ne sais pas comment le dire, de tremplin, en tout cas, pour pousser Kafka à exister dans le milieu littéraire.
Oui, mais c'est là que c'est fascinant, et finalement c'est une histoire éternelle, c'est-à-dire qu'en fait, Max Brod, c'est à la fois le meilleur ami et le faux ami, en fait. C'est le meilleur ami parce qu'il y croit sincèrement à son talent, peut-être même à son génie, qu'il se réjouit quand Kafka lui dit qu'il a des phases comme ça créatives. Il se dit enfin ça y est, enfin bon, mais en même temps, il le comprend pas vraiment. Finalement, si vous voulez, il y a pas, puisque En fait, Max Brod se meut dans un monde qui n'est pas celui de Kafka, ce monde des lettres, ce monde des... Alors en fait, Kafka a l'air toujours d'un petit garçon qui se laisse faire, qui se laisse... Mais en fait, et puis alors, au fil des années, même dans ce laps de temps de 1910-1914, finalement, Kafka éprouve cette question fondamentale qui est... Est-ce qu'on peut toujours louer ses amis écrivains? En fait, il se rend compte qu'il s'éloigne de Max Brod. Max Brod se marie. Donc, aussi, ça tourmente Kafka. Parce que Kafka se dit, mais tous mes amis ne sont plus ces vieux célibataires, etc. Ils se marient tous, et moi aussi, il faut que je me marie. Enfin bon. Donc, tout ça est beaucoup plus complexe et tortueux que le bon ami Max Brod, qui est son agent.
Un mot quand même sur Felice Bauer, dont le portrait vous a marqué aussi dans cette biographie, Cécile Gilbert. Elle est un petit peu, je sais pas, mieux présentée, comme vous le diriez. Son rôle en tout cas est plus important que ce qui était raconté jusqu'ici.
Ah bah justement, ça c'était vraiment une dimension à mon avis capitale de ce livre, c'est la réévaluation de Felice Bauer. À plusieurs plans, sur le plan familial, parce qu'en fait évidemment Star a eu des accès à des nouvelles archives, des choses, parce qu'en fait ce qu'il faut savoir c'est que depuis les années 60, date de publication des lettres de Kafka à Felice Bauer, en fait, et aussi à cause ou grâce à Canetti qui avait fait ce magnifique livre, L'autre procès, sur l'analyse de ses lettres. En fait, comme nous n'avons que les lettres de Franz Kafka et pas celles de Felice Bauer qu'il a sans doute détruites, en fait, on a toujours ce monologue insensé de cette houle, justement, dont parle Star, de ces 500 lettres de Kafka. Et en fait, Felice Bauer est une espèce de surface comme ça, vierge, sur laquelle on a l'impression qu'il projette des choses. En plus, comme il n'a pas eu des mots très aimables pour elle, des premières entrevues qui sont dans le journal et tout, bon, en fait, on fait de Felice Bauer une espèce de bonne femme pas très intéressante. On se dit, mais pourquoi il s'est entiché de cette femme? Et en fait, elle est fascinante, cette femme, parce qu'elle incarne un type de femme que Kafka n'a jamais connu. Il connaît que ses sœurs, sa mère, les prostituées, les serveuses et des tavernes. Et en fait, là, il rencontre une femme qui est, certes, qui est juive, qui vit toujours dans sa famille, mais qui a un travail de responsabilité, elle n'est pas secrétaire, elle a des responsabilités, elle est fondée de pouvoir d'une entreprise technique qui fait de la bureautique pour aller vite, etc. Elle voyage seule, elle va à l'hôtel seule, enfin bon, il n'a jamais rencontré une femme comme ça. Et on apprend des tas de choses sur, effectivement, la famille de Felice Bauer, et en apprenant aussi tous les troubles et les problèmes qu'il y a dans cette famille, parce que c'est une famille qui dysfonctionne pas mal, comme on dirait aujourd'hui, ça explique aussi des réactions ou des non-réactions épistolaires de Felice Bauer qu'elle n'ose pas avouer à Kafka. Donc tout ça devient beaucoup plus dense, plus complexe. Et je pense aussi que tout l'environnement technique dans lequel baigne Felice Bauer est magnifiquement
documenté.
Et alors là, ça ouvre des nouvelles perspectives sur aussi l'environnement psychique de Kafka confronté à cet environnement technique. On y reviendra peut-être.
Vous parlez du parlographe, alors allons-y.
Du parlographe, parce qu'en fait, on est à l'âge des machines à écrire, des dictaphones, comme on dirait aujourd'hui. Même à un moment, elle parle de tout ça à Kafka, qui lui dit, mais si on mettait ça sur, on couplait ça au téléphone, en fait, d'une certaine façon, on inventerait le répondeur téléphonique. Si vous voulez, il y a tout cet environnement technique dans lequel sont pris des humains, qui n'est pas anodin. Sur non plus les proses kafkaïennes, entre guillemets. Voilà.
Ça vous a surpris aussi tout cet aspect, d'abord peut-être sur Felice Bauer et ensuite sur cet aspect un peu technique, Régis Quatre-Sous, dans votre lecture et votre traduction?
Oui, tout à fait. Je pense qu'on peut même parler d'une réhabilitation en fait de Felice Bauer, enfin même d'une invention de Felice Bauer, parce qu'on ne la connaissait pas. Et effectivement, beaucoup de critiques ont parlé d'une surface de projection. Mais ce que dit Star, c'est qu'en fait, la surface de projection, c'est les critiques qui l'ont projetée. C'est pas la réalité, quoi. Et il donne une épaisseur à cette figure de femme en signalant qu'en fait elle est extrêmement représentative de son époque. Il la compare, comme tout le monde, à Milena Jesenska, qui sera l'amante plus tardive de Kafka, en signalant qu'on s'est beaucoup plus intéressé à cette figure-là parce qu'elle était beaucoup plus indépendante, parce qu'elle était elle-même écrivain, etc. Mais Star insiste largement sur le fait que Felice Bauer n'est pas moins intéressante, parce que justement il a ce regard où il s'agit de révéler la vie de l'individu dans les extrêmes détails. Et à partir du moment où on regarde quelqu'un comme ça, tout devient intéressant. Et c'est ça qui est assez magnifique dans ce livre aussi.
On va écouter Cyril qui, lui, nous parle donc de Kafka en général et qui est très ému de nous parler de Kafka et de découvrir des nouvelles facettes.
Je suis très troublé, là, à l'idée de parler de l'homme Kafka, parce que Kafka est certainement un des auteurs que j'ai le plus lu et l'auteur sur lequel j'ai le plus lu de livres. Et pourtant, ce que je sais positivement de lui est ce qui m'empêche de dire quoi que ce soit. C'est un homme qui s'est retrouvé au carrefour de très nombreuses contradictions, de contradictions impossibles à résoudre ou qu'il n'a pas pu résoudre, et qui ont fait son malheur, et un malheur duquel ni lui ni personne ne pouvait le sortir. Et tous ces récits, toutes ces nouvelles montrent manifestement ces contradictions-là et ce malheur-là. Et pourtant, c'était un homme qui manifestement était plein d'humour, était accueillant avec les autres, était ouvert, était encore humain. Et je ne m'explique pas comment un homme qui a creusé volontairement et avec obstination son propre malheur peut vivre encore avec les autres et avec une telle humanité.
Beaucoup d'interrogations de notre lecteur Cyril. Est-ce qu'on n'a pas souvent trop projeté l'œuvre qui est très noire de Franz Kafka sur le personnage qu'il était, Régis Quatre-Sous?
En fait, moi, cette œuvre, je dois dire que je la trouve très drôle. En fait, on sait que Kafka riait en lisant le premier chapitre du procès qui, rétrospectivement, parce que bon, un certain nombre d'événements historiques absolument dramatiques se sont interposés, nous apparaissent terribles. Mais lui, quand il lisait le premier chapitre du procès, il avait un fou rire et ses amis aussi. Et quand on accède à cette dimension des textes, que ce soit dans le procès ou dans la métamorphose, on comprend qu'il y avait chez Kafka une forme d'humour sublime, pour utiliser un grand mot, mais qui rappelle un peu ce que disait Beckett, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus drôle que le malheur, quoi. Même si ce n'était pas du tout la perspective de Kafka, je ne veux pas plaquer ça sur lui. Après, on a eu tendance à le prendre un peu trop au mot, et je partage la perplexité de l'auditeur vis-à-vis du malheur que Kafka a creusé lui-même. Le bout de l'œuvre par lequel j'ai abordé Kafka, c'est les lettres à Félicé. Et ça m'a pris longtemps pour lire ce livre parce que c'est très très éprouvant et parce qu'on a l'impression de lire les lettres de quelqu'un qui s'acharne à gâcher une relation dont on ne sait pas grand-chose du fait du côté monologique de la correspondance, mais qui recèle quand même un certain nombre de promesses pour lui, qui d'ailleurs il énonce, promesses de liberté, promesses d'indépendance vis-à-vis de ses parents, promesses d'une vie conjugale heureuse, promesses d'accès à la plénitude, parce que lui il concevait la plénitude avec les autres, et en particulier avec une compagne. Donc c'est assez difficile de comprendre pourquoi, mais je pense que la biographie nous aide un peu à mieux comprendre ce dilemme qu'il a posé, notamment entre la littérature et le mariage.
Cécile Guilbert, pour terminer sur le personnage singulier qui était Kafka, peut-être sur l'humour aussi, c'est intéressant.
Oui, mais d'ailleurs, l'humour, on le sent très bien dans ses lettres aussi, parce qu'il est assez prosodier, il est très amusant au début quand il écrit à Félicé Bauer. Mais c'est vrai qu'il est pris dans des contradictions. Vouloir se marier, être un homme complet, aller du côté de la vie avec le mariage, c'est quelque chose auquel il aspire beaucoup. En plus, c'est important dans le judaïsme, même si c'est déscoré chez lui. Et puis en même temps, je veux dire, se marier, avoir une vie de famille, c'est être comme ses parents. C'est être comme tout ce monde auquel il est complètement étranger, comme il l'écrit. Je suis complètement étranger à ma famille, je suis un étranger. Et tout est comme ça, c'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est une sorte de double bind perpétuel.
Si on ne comprend pas peut-être parfois, ou si on n'y voit pas cet humour, Régis Quatre-Sous, pour terminer, dans ses écrits, est-ce que c'est aussi une difficulté de traduire son humour, sa façon de voir les choses aussi, ou pas, selon vous?
L'humour, comme ça pour le dire rapidement, c'est un peu difficile. Mais l'humour chez Kafka vient d'une espèce d'acharnement dans la complication, quoi. Si vous voulez, c'est comme, pour prendre un exemple assez typique, c'est la nouvelle qui s'appelle Une missive impériale, où en fait l'empereur envoie un messager porter donc une missive à quelqu'un. Et il y a tellement d'obstacles qui s'interposent que le messager n'arrive jamais. Et ça, c'est c'est drôle. En fait, c'est drôle d'une manière tout à fait paradoxale et tout à fait terrible, mais ça porte un humour assez fort, je pense. Donc, ça, je ne sais pas si c'est vraiment l'écriture proprement dite, si c'est une recherche d'effets humoristiques, mais il y a quelque chose dans la logique même qui dégage un humour. Voilà.
Et on découvre un nouveau Kafka, j'ai envie de dire, dans cette biographie de Daniel, de Rainer Stark, pardon, publiée aujourd'hui au Cherche Midi, que vous avez traduite. Régis Quatre-Sou, le tome 1 s'appelle Le temps des décisions. Merci beaucoup d'être venu nous en parler ce midi. Merci beaucoup, Cécile Guilbert, d'être venue dans le Book Club de France Culture nous parler, vous aussi, de cette lecture de la biographie événement de Franz Kafka. Il faudra attendre novembre pour le tome 2 et l'année prochaine pour le tome 3. Merci à tous les deux d'être venus. Dans un instant, l'épilogue du Book Club, mais avant 13h25, les quadritèmes de Charles Danzig.
Le Cubain Guillermo Cabrera Infante, qui est né en 1929, a critiqué le gouvernement de Batista, y gagnant d'y faire un peu de prison, expression dont je m'excuse aussitôt. On ne fait jamais un peu de prison, comme si c'était une pincée de sucre. Il a ensuite été castriste, mais son frère a eu le malheur de tourner un documentaire sur la vie nocturne à Cuba qui a déplu au puritanisme officiel. Les tyrannies ont perfectionné le « si ce n'est toi, c'est donc ton frère » du Loup de la Fontaine. Leur devise est « si c'est ton frère, c'est donc toi ». Et Cabrera Infante est interdit de publication. Il reste néanmoins loyal et est nommé attaché culturel à Bruxelles. Outre la cruauté, ce qui frappe dans les tyrannies est leur stupidité. Envoyer en Europe capitaliste quelqu'un qu'on soupçonne d'être un opposant au communisme ? Revenu à Cuba pour visiter sa mère mourante, il y est emprisonné 4 mois sans raison, ayant ainsi, comme il arrive souvent aux gens honnêtes en période de révolution, été puni par l'ancien régime et par le nouveau. Reparti pour l'Europe, Cabrera Infante a pris la nationalité anglaise, il est mort en 2005. Il avait publié « Trois tristes tigres », quel bon titre, n'est-ce pas, en 1967, en Espagne, ayant dû, d'une tyrannie à l'autre, accepter la censure de plusieurs passages. « Trois tristes tigres » est un roman du La Havane d'avant la Révolution. Il se passe principalement la nuit, dans un cabaret ou un autre. On y trouve ce membre de phrase extraordinaire qui pourrait être un exemple de pourquoi les écrivains écrivent mieux que tout le monde. Le voici, c'est « Le monde des hommes grenouilles de la nuit ». Absolument pas réaliste et donc très sérieux, sarcastique, jouant sur le langage des personnages, il est très bien traduit par Albert Bensoussan, c'est une galerie de personnages réjouissants. Et pas les principaux, qui sont essentiellement des narrateurs à qui il arrive des aventures, mais les personnages secondaires et essentiellement les femmes. L'une d'elles est une grosse. Elle semble entrer dans un stéréotype, mais non. De sa grosseur ne découle aucun trait moral particulier, vice ou vertu. Elle est grosse et autre chose. Cette extravagante qui se présente sous un nom de scène, la Estrella, à l'étoile, a cette phrase très simple. « Je ne suis pas une dame, je suis une artiste, merde !» Tous les passages qui la concernent sont extraordinaires, de la poésie en prose. En voici un. Elle se baigne 3 fois par jour, quand elle arrive le matin, à midi quand elle se réveille pour déjeuner, et le soir avant de sortir, parce que ce qu'elle peut transpirer. Elle fait eau de toutes parts, comme si elle avait toujours la fièvre, et c'est ainsi qu'elle passe sa vie dans l'eau, transpirant, buvant de l'eau et se baignant. Et tout cela en chantant. Elle chante quand elle rentre le matin, elle chante sous la douche, elle chante en s'habillant pour sortir, elle chante toujours. À ceux qui se le demanderaient, voici comment on peut devenir amoureux d'une grosse.
Les quadritèmes de Charles Danzig à retrouver sur franceculture.fr et sur l'appli Radio France. Un grand merci à toute l'équipe du Book Club, Auriane Delacroix, Zora Vigné, Jeanne Agrapard, Alexandra Ibegovic et Didier Pinault. C'est Thomas Beau qui réalise cette émission et à la prise de son ce midi, Ruben Carmazine. Vous retrouvez le quart d'heure de lecture avec le Centre National du Livre et le mot-clé d'Imar Joly sur notre compte Instagram. Et nous, on termine avec l'épilogue du jour, comme tous les jours.
Il y a une volonté de ne strictement rien inventer et de puiser dans une matière qui est finalement assez abondante.
C'est ça qu'il faut bien garder à l'esprit quand on se demande ce que c'est qu'être écrivain.
C'est un choix contraint. Il ne peut pas écrire vraiment à un autre moment de la journée.
Oui, c'est tout à fait juste. Et ça, on le comprend très bien parce qu'en fait, on se rend pas compte à quel point son travail consiste à écrire au bureau.
Et tout devient intéressant.